Cette semaine est consacrée au Montezan Jaco. Souvenez-vous, j'étais venue avec mon micro en juillet l'année passée pour une première interview reliée à sa musique, mais aussi et surtout pour parler du projet McFly, voyage autour du monde sur un voilier. Les envies se réalisent, ce n'est aujourd'hui plus un projet. On est là pour parler du voyage, du retour, et une surprise arrive, un 4 titres qui voit gentiment le jour. Restez à l'écoute.
Bonjour, c'est Cajot et vous écoutez Alp Radio.
Non, je ne ferai pas semblant comme toi de pleurer par cinéma, par sentiment ou par amour, ça m'étonnerait dans ton regard plein de rêves que ta libido a crevé. Il ne t'a pas fallu grande trêve, une fois parti pour me couler. Non, je n'ai plus rien à te dire, ne serait-ce de m'oublier avec tes histoires de martyrs et ton blabla déjà tout fait. As-tu choisi les bons vents en mettant le cap par là, quitte à retourner ton veston? Je pars mes affaires sous le bras. De plus que les je t'aime au bout d'un jour sont aussi doux que les cactus et que l'on ne m'y reprenne plus, ou alors qu'on me botte les fesses à m'emballer comme ça pour les beaux yeux d'une gonzesse. La moralité de cette histoire, si on a une, ainsi est-elle faite de rire et de déboire. Mes bons amis sont fidèles, mettre les voiles jusqu'au matin, vivre sa vie sans lendemain, puis tendre la joue pour prendre des gifles, ça fera rire les copains.
Salut Jaco.
Salut Laura.
Comment ça va depuis la dernière fois? Nous on s'était vu il y a une année environ, on s'est vu en juillet l'année passée. Comment ça va depuis?
Mais ça va bien, ça va tout nickel. Depuis je suis parti sur mon petit bateau.
Oui.
Et puis je suis revenu il n'y a pas très longtemps, donc j'ai recommencé le boulot. Et puis je regratouille un petit peu ma guitare et je réécris des petites chansons pour faire rire les gens.
Bah moi, je suis heureuse de te retrouver, en tout cas, parce que j'ai suivi de près, de loin, ton aventure, hein, via ton site internet, et puis le blog et la page Facebook du projet McFly. Et puis, on va avoir l'occasion, durant l'interview, d'en recoser un petit peu. Alors, je voulais juste faire une parenthèse. On voulait faire cette interview sur un arbre, mais je vois que Dame Nature, elle n'est pas trop de notre côté aujourd'hui.
Ouais, c'est dommage, c'est vrai que j'avais dans l'idée de faire cette interview sur un platane sur la place centrale à monter. J'ai pris mon échelle d'ailleurs avec.
Oui, on a pris l'échelle.
Et je trouvais super marrant de faire cette interview sur un arbre, parce que ça donnait un petit côté atypique et puis un petit côté vert au milieu de la ville comme ça. Et ma foi, on se retrouve sur une terrasse coincée sous un parasol, parce que parole de marin, il va arriver un peu de pluie. Autant se mettre au sec tout de suite.
Parole de Mara, mais en même temps, l'essentiel, c'est qu'on soit là et qu'on partage un bon moment. Et moi, je suis ravie, en tout cas. J'avais quand même envie de rajouter bain de lumière, douceur d'atmosphère.
C'est pas faux.
C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses ?
On aurait pu dire interview pluvieux, interview heureux. Mais
bain de lumière,
aussi.
Douceur d'atmosphère, c'est joli.
C'est poétique, n'est-ce c'est pas ? Alors, pour un petit récapitulatif du projet McFly, rappelle-nous en quoi ça consistait exactement.
Écoute, on a racheté un bateau avec deux potes qu'on a retapé pendant une année. Donc deux potes musiciens, Emilien de Downless et Hugues, qui est très bon musicien de mon cœur. Et on est parti, on a retapé ce bateau et puis on est parti du milieu de la France. On a été là, pour l'instant on est allé jusqu'au Brésil, on s'est fait malheureusement bloquer un peu par le temps parce qu'on part dans le sud, donc vers l'Antarctique. Et on doit passer le Cap Horn, mais malheureusement là c'est la période des icebergs, donc on n'a pas pu passer. Donc jusqu'au mois de janvier on est bloqué. Donc je suis revenu un petit peu travailler pour remplir les caisses du bateau. Okay. Et puis profiter de faire un peu de musique aussi.
Des étapes heureuses, mais tu le dis, un peu plus difficiles, même beaucoup plus difficiles. Je me souviens que tu me disais que ce qui te faisait le plus peur, c'était le fait de ne pas être navigateur, d'affronter les grosses vagues, les océans. Et puis, sur la longévité de ce voyage, le fait de ne pas se laver, etc. Est-ce que tu as quelque chose à dire là-dessus ? Oui, tu as quelque chose à dire.
Ouais, c'était très dur au début de se retrouver seul comme ça au milieu de la mer. C'est vrai que tu perds beaucoup de choses. Tu n'as pas d'électricité, tu n'as pas d'eau potable. C'est la totale liberté parce que tu es au milieu de nulle part, mais tu es confiné. Tu es confiné sur un petit bateau de 10 m50 à 3, donc il faut super bien s'entendre. Mais en même temps, on était un peu comme une cordée en montagne. Donc chacun était là pour prendre soin de l'autre et faire avancer le bateau. Après, navigateur, t'apprends à le devenir. Je ne le suis pas totalement encore. J'ai commencé mon apprentissage de navigateur. Mais t'apprends à le devenir, à regarder la mer, à regarder le temps, à regarder tes cartes, à savoir est-ce que tu peux sortir ou pas. Et c'est vraiment quelque chose où il ne faut pas rigoler parce que t'es quand même dans un milieu super hostile. Tu ne peux pas te permettre l'erreur. Il nous arrivait des gros temps, il nous arrivait pas mal de soucis plus techniques que de météo, de choses comme ça. On n'a pas eu vraiment de grosses tempêtes. Mais c'est vrai que c'est assez angoissant parce que ça avance très lentement. Bah, quand il n'y a pas de vent, t'attends. Tu vois, donc, en même temps, c'est un truc génial. Parce que quand t'arrives dans un endroit, je vois qu'on est parti des côtes de l'Afrique, enfin du Cap Vert, et que t'arrives et que tu vois le Brésil, tu te dis, mais je suis parti du continent africain, j'arrive en Amérique du Sud, et j'ai employé que le vent. Donc j'ai vraiment employé aucune autre chose, juste le vent. Et ça, c'est juste quand même hyper glorifiant, et t'es très fier d'arriver. T'es très fier d'arriver à l'endroit, et t'as envie de le crier aux gens, en disant, moi je suis venu avec le vent. J'ai pas pris l'avion, j'ai pas pris le truc, j'ai mis 6 mois pour arriver là. Et ouais, c'est juste merveilleux. C'est juste merveilleux.
C'est une belle aventure humaine. Quand il n'y a pas de vent, vous attendez, qu'est-ce que vous faites ? Vous racontez, vous partagez évidemment. Est-ce que tu as des anecdotes du coup ? Qu'est-ce que vous racontez ?
On s'amuse, on essaye de passer du bon temps pour que les journées passent vite. Donc, on se coupe les cheveux, on fabrique des étagères avec des bouteilles en plastique, on repeint un peu le bateau, on fait la cuisine, on pêche. On essaye de s'occuper comme on peut avec ce qu'on a. Donc,
d'accord. Et est-ce que y a eu des fois où vous êtes pris de bec ou où les tensions surgissaient et puis en même temps, je pense que vous apprenez à vous connaître aussi, même beaucoup.
Alors, t'apprends beaucoup à connaître les gens, c'est vrai. Après, sur un bateau, il y a des prises de gueule, c'est clair. T'es trois mecs sur un bateau, sur un espace de 20 mètres carrés pendant 6 mois. Des prises de gueule, il y en a. Par contre, t'as pas le droit à la rancune. La rancune n'existe pas. Donc, si tu pousses un coup de gueule, si tu pousses une gueulante, dans les 2 minutes après, tu vas lui faire un petit bec en lui disant « je t'aime ». Donc c'est merveilleux parce que tout le monde est là pour veiller sur l'autre. Donc il y a des coups de gueule, bien sûr, vu qu'on trois caractères différents, puis trois forts caractères qui plus est sur le même bateau, ça tire des coups de gueule, parce qu'un coup il y en a un qui fait pas la vaisselle, il y a l'autre qui laisse traîner ça, l'autre il est plus maniaque que l'autre, il y a des énormes coups de gueule.
Qu'est-ce qui vous différencie le plus des trois, sur les trois?
Le caractère. Tout le monde est différent et le caractère, ben, lui il va aimer faire la cuisine, lui il va pas aimer faire la cuisine, lui il aime bricoler, lui il aime rien foutre, lui il aime faire ci, tu fais la sieste. Le caractère, juste le caractère, la personne. Ce qui nous différencie, c'est qu'on était trois personnes sur un bateau. Et trois personnes, quand tu passes quelques heures avec quelqu'un, tu vas pouvoir bien t'entendre, même très très bien. Mais quand tu passes 6 mois confiné dans 20 mètres carrés, je te défie de rester avec 2 copines assis dans une chambre pendant 6 mois. Voilà.
On imagine, on laisse imaginer tout ce que vous voulez. En tout cas, merci pour ces réponses. Je me souviens que tu m'avais dit que tu étais chargée des lessives. Et tout ça parce que tu étais le seul à pas naviguer. Alors,
je me suis occupé un peu des lessives.
Un peu seulement?
Ouais, non, mais on faisait pas beaucoup la lessive parce qu'on vivait en slip. Forcément, on a vécu avec le soleil et l'été. Donc on vivait en slip, alors tu vois, tu changes de slip chaque 10 jours.
Très peu de lessive.
Très peu de lessive. Mais c'est vrai que je me suis pas mal occupé de la lessive. S'ils m'écoutent, ils pourront pas dire le contraire. La bouffe, pas trop.
Ils sont témoins.
Hugues était très bon cuisinier, on a pas mal fait la cuisine avec Hugues, mais Hugues, en navigation, c'était le plus expérimenté. Et la navigation, ça prend déjà tellement de temps et beaucoup d'énergie. Et la nourriture, en fait, de manger le midi et le soir, c'est ce qui te garde un rythme. Et Hugues, étant navigateur, a en fait déjà... c'était sa 3e traversée de l'Atlantique, avec quand même plus d'expérience que nous. Donc lui a pris un petit peu les rênes à ce niveau-là. Donc Hugues a fait beaucoup la cuisine pendant la navigation.
D'accord.
Et la navigation, de toute façon, tu peux pas faire de lessive parce qu'il n'y a pas d'eau douce. On avait des réservoirs d'eau. Ouais, on avait
vraiment le minimum.
Et les réservoirs d'eau, tu les gardes pour la sécurité. Si t'arrives quelque chose,
voilà.
Tu vois, 300 litres de réservoir d'eau potable plus 600 litres en bouteille, donc c'est juste incroyable. Chaque goutte d'eau compte.
On se rend pas compte quand on le vit pas, et c'est vrai que le fait d'aborder justement ces détails là, c'est bien de le savoir, et comme ça, ça permet de le vivre d'une certaine façon. Voilà. Alors, bah, vous êtes parti le 6 septembre 2011, c'est ça?
C'est ça.
Et du coup, le retour?
Le retour s'est fait un petit peu précipité, parce que moi, j'avais plus trop de sous, donc j'ai dû rentrer. Problème pécunier, toujours, parce qu'on avait pas mal de soucis techniques, donc il a fallu réparer, il a fallu bricoler.
Ouais.
Et du fait d'être bloqué là, entre le Brésil et l'Argentine, de ne pas pouvoir aller plus loin que le milieu de l'Argentine, je me suis dit, bah voilà, on doit préparer le bateau pour aller au sud, vers le Cap Horn. C'est quand même les grosses mers, hein, les rugissantes. Donc je me suis dit, allez, je pars, je retourne travailler sur les chantiers, je me fais un maximum d'argent. Donc j'habite chez grand-maman, c'est merveilleux, je paye pas de loyer. Adrienne, je te fais un gros bec.
Super grand-maman.
Et puis, ben voilà. Donc moi, je rentre travailler, là, je me rappelle plus trop quand je suis rentré, il y a 2 mois, donc ça devait être début mars, après le carnaval au Brésil. Pendant 2 mois, j'ai fait de la musique, puis là, j'ai recommencé le travail. Donc, je vais retravailler jusqu'au mois de décembre et repartir au mois de décembre, rejoindre Hugues, préparer le bateau pour pouvoir partir dans le sud. Donc, voilà, remplir les caisses de bord, en fait, quoi.
Très bien. Waouh. Ça, y a du mouvement, ça bouge. Et puis, lui, il est resté là-bas.
Hugues est resté là.
Alors, tu as des nouvelles régulières, raconte.
Alors, Hugues, il n'est pas très internet, et, il est plus boulon avec la molette. Le jour où l'ordinateur aura des bielles et puis des choses comme ça, comme sur un moteur, il sera super internet. Mais oui, je l'ai régulièrement sur Skype et tout ça, donc on discute, on parle du bateau, ça fait très plaisir, on se manque beaucoup.
Oui,
imagine. Donc du coup, oui, on se donne des nouvelles de où il est, comment va le bateau, comment va les choses. Et on se réjouit juste l'un et l'autre de pouvoir se revoir et puis de se reprendre dans les bras. Et puis se refaire le café le matin pour continuer à naviguer ensemble.
L'eau, la mer te manque aussi?
Beaucoup. Beaucoup. J'étais pas du tout haut. Je nageais comme une clé à molette. Et depuis ce voyage, quand on était dans les mouillages ou au port, j'étais obligé d'aller tous les jours dans l'eau, tous les jours nager, aller gratter le bateau, aller contrôler le bateau sous l'eau, faire de la plongée, aller faire de la chasse sous-marine un peu pour manger du poisson frais. J'étais très attiré par cet élément alors que j'étais pas du tout avant. Et oui, ça me manque. Ça me manque énormément.
Très bien, oui. On voit dans tes yeux, tes très beaux yeux, très clairs. Un peu comme l'océan.
Ça me manque.
Non, ouais. Ça se voit et t'es tout touché, en tout cas. Et moi, je suis tout tremblée.
Avec la terre de supérieur, je vous briserai bien un jour.
On passait à la musique. Je vais pas dire album, je vais dire 4 titres. Oui. Hein, on régularise ça tout de suite. Alors, je me souviens, l'année passée, tu me disais que tout le monde te réclamait un album, hein, déjà. Mais toi, tu voulais prendre ton temps, avoir du recul, le nourrir de voyages, de rencontres. C'était ton souhait. Sans rappeler que vous êtes des musiciens et pas ingénieurs du son. Mais qu'importe, c'est fait avec le cœur. Dis-nous. Ce que tu as ramené de ce voyage par rapport à ça?
Pas grand-chose, mais en même temps énormément. Pas grand-chose parce que la navigation, ça prend beaucoup de temps. Donc on est toujours en train de bricoler, on est toujours en train d'essayer de trouver les meilleurs trucs. Il faut poncer, il faut peindre, il faut faire de la mécanique, il faut faire de la couture, il faut recoudre les voiles, il faut recoudre des rideaux, il faut recoudre des coussins.
Beaucoup d'imprévus, beaucoup de...
Énormément, donc ça te prend le 95% de ton temps. Après, on a pas mal joué quand même. On a composé une des chansons là, qui est sur le 4 titres, a été composée en mer. Donc, musique et texte.
Laquelle ?
Peine perdue.
Oui. D'accord.
A été composée en mer. J'ai fait un concert en France en partant. J'ai fait 2 concerts au Brésil. Et c'était juste magnifique dans un bar sur pilotis avec le bateau en face au mouillage, donc le truc de rêve, juste avec l'eau turquoise, le truc juste de rêve. Un bar qui s'appelait le One Love, que je salue, un patron génial qui m'a laissé jouer là-bas. Et je me suis juste gavé les oreilles je me suis rempli les oreilles de musique. C'était en Espagne, c'est au Cap-Vert, c'était juste magnifique pour la musique. Le Brésil, c'était juste incroyable.
Les cultures,
les percus, des rythmes qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ici et qui sont prenantes. Alors j'ai ramené plein le cœur et l'esprit, pas forcément dans mes chansons. Ça va peut-être se ressentir un petit peu plus tard, le temps de digérer un petit peu tout ça et,
oui.
Et de laisser poser la chose, parce que je suis encore tout dans les nuages.
Oui.
J'ai envie de danser avec ma brouette sur les chantiers, quoi.
Ouais, c'est difficile de réatterrir d'un voyage comme ça. Ça t'a fait quoi, le fait de revenir ici, en Suisse, sur terre, pied sur terre, comme ça?
Et la société, elle te rattrape vite. La société, elle te rattrape très très vite, et puis elle te remet très très vite dans le bain, parce qu'elle te fait vite comprendre que il faut avoir ça, et puis il faut travailler, il faut avoir de l'argent si tu veux vivre. Dans les pays, dans les pays en voie de développement, où il y a quand même beaucoup plus de misère que de gens riches, quoique ce sont des gens heureux, t'as pas besoin de beaucoup, du sourire et une belle parole, d'aller jouer au foot avec les gamins, ça te suffit, parce que la vie coûte pas cher pour des gens comme nous qui gagnons bien notre vie ici. Mais arriver ici sans argent, tu remarques qu'il faut très très vite te remettre dans le bain, et tu te remets très très vite dans le bain, parce que la société ne t'oublie pas.
Ces moules, etc., et ces codes, ouais, j'imagine bien que c'est rude. Au niveau des photos, reportages, vidéos, écriture, prise de sang, est-ce que ça a été pris quand même sur tout ce qu'il y a eu entre les réparations, ce que tu me disais, ces imprévus, ces...
Alors, pas mal d'images. J'ai fait le caméraman un peu de bord, donc on avait une super caméra, on avait deux caméras. J'ai fait pas mal d'images, d'avoir une dizaine d'heures d'images là qui sont en boîte. Je les donne pas encore au monteur, parce que vu que je repars, je regarde, je reprends la caméra est toujours sur le bateau, donc le trip va durer, je pense, 5-6 ans, du temps qu'on finisse le tour du monde.
Oui.
Et par contre, tout ce qui est prise de son, c'est très compliqué, parce que pour aller dans les ports, ça coûte relativement cher, et c'est là où t'as l'électricité. Donc nous, on était tout le temps au mouillage, donc ça veut dire à 200 mètres de la rive avec l'ancre, et là, t'as pas d'électricité. Donc pour faire tourner des machines, donc des ordinateurs avec des cartes son et des choses comme ça, il faut de l'électricité. Nous, on n'en avait pas. On avait un petit panneau solaire qui, malheureusement, n'arrivait pas à générer toutes nos batteries. Parce qu'on a quand même 4 batteries dessus, puis on devait les garder pour les feux de navigation. On devait les garder pour les choses très importantes, tu vois, pour charger les ordinateurs avec les programmes de navigation et tout. Donc on a oublié les prises de son. C'était un peu utopiste de se dire, on va partir, on va essayer de faire un album. Si on avait vraiment eu les moyens, on aurait pu le faire. En restant dans les ports et pouvoir brancher ton câble, tu peux brancher ton ordi. Mais là, on vivait vraiment avec le minimum d'énergie. Donc, on n'allumait pas les lumières parce qu'il fallait garder ton énergie pour naviguer.
En tout cas, tu retrouves toutes ces valeurs qu'on oublie ici. Et on y revient, hein, en revenant dans la société, dans ses moules et ses codes et ses fonctionnements. Et ça fait pas de mal, c'est même, je pense, une chance de pouvoir vivre une aventure comme ça. Et de pouvoir
lire avec la lumière de la lune. Mais c'est le truc qui m'a le plus marqué. La pleine lune en pleine mer, quand la lune est pleine, tu peux prendre ton bouquin et t'arrives à lire avec juste la lumière de la pleine lune. Ça, c'est un truc qui est juste incroyable, d'être dans une bulle d'étoiles, avec des étoiles filantes qui partent du bas, qui traversent tout le ciel. Et lire avec la lumière de la lune, moi, c'est le truc qui m'a le plus marqué. C'est le truc qui m'a le plus marqué, de pouvoir sortir ton livre en pleine nuit. Et puis avec la lumière, t'as l'impression d'être sous un lampadaire. Il n'y a aucune pollution lumineuse, il n'y a rien. Il n'y a rien, t'as des milliers de kilomètres de toute première lumière. C'est juste magique, quoi. C'est juste splendide. Après, quand tu reviens ici, c'est dommage. Enfin, personnellement, je reprofite pas mal quand même la douche chaude. Parce que pendant 6 mois, je n'ai pas pris une douche chaude ni une douche d'eau douce. Donc c'était de l'eau salée tout le temps au bidon. Donc de prendre des douches chaudes, c'est vrai que je traîne un peu sous la douche. L'électricité, je laisse un peu charger mon ordi. La lumière, t'oublies un peu, tu regardes la télé. Le frigo.
Ouais.
Un frigo.
Des choses, du matériel qu'on fait plus attention parce que c'est dans notre automatisme. Et là, et tu retrouves tout ça, et tu reprends vite goût, certes, mais...
Mais tu te dis que finalement, t'en as pas besoin.
Voilà.
Tu peux... Ici, non. Quand on vit ici, t'en as besoin. Tu vois, tu pourrais pas avoir. Tu pourrais pas vivre sans frigo. Tu vois, sinon tes aliments, ça périt, c'est dommage, c'est de la nourriture gâchée.
Ouais.
Mais après, si t'es vraiment confronté à ça, bah tu vas faire en fonction. Donc tu vas prendre les produits qui vont se conserver, ceux qui vont un peu moins se conserver, puis tu vas faire en fonction. Tu vas manger d'abord ceux qui se conservent le moins, tu vas garder pour la fin ceux qui se conservent le plus. Tu fais super attention à ce genre de choses, quoi. L'électricité, l'eau potable, c'est au compte-gouttes. Mais alors qu'ici, t'allumes un robinet, t'as de l'eau qui coule, quoi.
C'est un tout autre monde. C'est vrai, quand tu en parles, moi, je suis imprégnée par ce que tu me dis. C'est pour ça que je reste un peu sans voix. mais en tout cas, je pense que c'est une chance, oui, de pouvoir vivre ça. Ça donne envie.
Ça remplit l'esprit.
Ça donne envie de braver les tempêtes et puis de pouvoir... Je pense que c'est dur, oui. Mais t'as quand même le côté, peut-être la vraie réalité du fond de la nature et tout ça.
Et t'es seul, c'est la nature et toi.
Ouais.
C'est la nature et toi et ton bateau, parce qu'il faut avoir confiance en ton bateau. Mais c'est vrai que tu reviens aux vraies valeurs. Tu reviens juste aux vraies valeurs et puis c'est bon de le vivre. Il y a des gens qui sont faits pour pouvoir le vivre toute leur vie. Il y a des gens qui sont faits pour pouvoir le vivre sur une courte période. Et il y a des gens, je pense, qui ont essayé, qui seraient incapables, qui trouveraient ça comme une prison.
Mm-hmm.
Tout simplement, comme une prison. Alors, pour moi, c'est maintenant. Au début, j'ai eu beaucoup de peine. Mais de vivre comme un escargot et de voyager avec ta maison sur le dos, c'est juste incroyable.
Au niveau de tes amis, de ton entourage, d'une éventuelle histoire d'amour, comment tu vis ça aussi par rapport au monde qui t'entoure?
C'est assez dur de quitter le monde. C'est assez dur de quitter le monde parce que tu sais que tu vas quitter tous tes potes. Tu sais pas pour combien de temps. Nous, on est partis, on savait pas pour combien de temps. Malheureusement, je suis rentré après 6 mois. Mais c'est vrai que j'ai laissé une fille ici. Ça s'est pas trop bien passé, le départ. On s'est séparés sur le milieu, donc d'un commun accord. Mais le pire, c'est ma maman. Le pire, c'est ma maman. Donc, c'est les soucis de la maman, de son fils, de le voir partir en mer.
Ouais.
Et c'est pas comme d'aller faire un voyage par la terre. Là, tu pars en mer, t'es livré à toi-même. T'as pas de téléphone, y a pas d'internet, y a aucun moyen de communication.
Mm-hmm.
Donc, t'es livré à toi-même. Et ça, ma maman, elle rêve que je me case avec une gonzesse et que je reparte plus jamais.
C'est l'instant de maman.
À son grand malheur. À son grand malheur, parce qu'elle sait que je repars bientôt, donc au mois de décembre.
Mais en revoyant ton retour.
C'était la femme la plus heureuse de la terre. Quand je lui ai dit que je rentrais,
elle est.
Énorme fierté.
Ah ouais, tu penses.
Énorme fierté, parce que son fils a été navigué, a traversé l'Atlantique, a fait 12 000 kilos sur un petit bateau. Oui, il y a cette peur, il y a cette appréhension, il y a ce stress et ce. Mais il y a cette fierté d'avoir fait ça. Il l'a fait.
On va revenir à ce fameux 4 titres. À peine de retour, tu enchaînes direct. Jaco, le retour en force. C'est vraiment ça. C'est une boule lumineuse qui revient. En tout cas, on s'est vu entre-temps avant cette interview déjà. Et c'est un véritable plaisir. Je t'ai vu en boule lumineuse. Quoi. C'est vraiment... Le rayon de soleil qui a des choses à raconter. Est-ce qu'il y a une date précise de sortie?
Pas vraiment, parce que vu que c'est le premier 4 titres, je suis en train de regarder comment est-ce que ça se passe avec les droits d'auteur et la paperasse et les choses comme ça. Donc je suis pas vraiment au point là-dessus. Là, j'ai eu pas mal de contacts, j'ai eu pas mal de pistons, j'ai eu pas mal de renseignements. Ça va venir, je l'espère. Entre mi-juin et fin juin.
J'ai hâte. J'ai hâte.
Mais
c'est pour ça que j'esquive un sourire et un rire. C'est que je suis quand même privilégiée parce que j'ai quand même eu droit. Je l'ai déjà. J'ai pu l'écouter et pas qu'une fois. J'ai pu méditer dessus et très touchée en plein cœur. Et je te remercie déjà pour la je ne sais pas combien tième fois. Alors, il s'appelle « Mes quatre vérités », d'où une des chansons nommées ainsi, que tu nous avais d'ailleurs jouée en live à la fin de l'interview, qui est d'ailleurs en podcast sur le site de la radio. Donc, aux intéressés et aux autres, tout est en écoute sur www.alpradio.ch. Voilà. Quel symbole a ce nom ? Pourquoi tu t'as donné ce nom à l'album ? Enfin, aux quatre titres ?
Ben, parce que de faire un CD, déjà, je suis plus un gars de scène. Donc, j'aime être sur scène et si je fais de la musique, si je chante, c'est forcément pour dire quelque chose. Sinon, je chanterais pas. Donc, c'est que j'ai quelque chose à dire, j'ai une envie de partager un petit peu des histoires qui m'arrivent, d'avoir un peu la chance d'écrire un petit peu. Et quand tu vas sur scène ou quand tu enregistres et que tu fais quelque chose comme ça, c'est tu te mets un petit peu tout nu et puis tu dis les choses comme ça à nu. Donc, mes quatre vérités, du fait que cette chanson s'appelle Mes quatre vérités, il y a quatre chansons, on a joué un petit peu là-dessus. Et je trouvais que, ben voilà, je disais mes quatre vérités un petit peu là-dessus. Et on dit toujours nos quatre vérités, mais je trouvais que c'était un bon nom pour le CD, de dire mes quatre vérités, quoi.
Très bien. Alors, les titres, les chansons de l'album, il y a Peine perdue, mes quatre vérités, donc la fameuse que j'aime beaucoup et que tu nous avais jouée. Sans rancune, qui est un peu plus électrique hein, comme chanson. Et à reculons. Est-ce que dans toutes ces chansons-là, est-ce que c'est le synonyme des quatre vérités ? Est-ce que on retrouve les quatre vérités dans ces chansons, dans tes textes ?
Oui et non. Enfin, c'est surtout c'est toutes des chansons qui ont été inspirées par des faits vécus, par des histoires que j'ai vécues, toutes les chansons. Et finalement, quand tu te dis, je me dis un peu à moi-même mes quatre vérités là-dedans. Donc, à certaines personnes aussi, mais surtout à moi-même. Donc, oui, on retrouve les quatre vérités. Parce que les quatre vérités, finalement, c'est de se dire ce qu'on a au fond de nous et qu'on pense, mais qu'on n'ose pas se dire. Et là, de les mettre en CD, de les enregistrer, je me suis un petit peu dit mes quatre vérités.
Ça fait quelques heures déjà que je suis là, couché dans ton lit. Je ne dors pas, tes cheveux sur mon visage ne me dérangent pas. Ils sentent bon la prune et goûtent le chocolat, me chatouillent le nez et je passe mes doigts sur ton dos tatoué de belles plumes d'iroquois. Et tes yeux qui dorment dans tes louches me regardent d'un air un peu farouche. Ils crèvent d'envie de me raconter, de me dire mes quatre vérités. Et tes yeux qui dorment dans tes louches me regardent d'un air un peu farouche. Ils crèvent d'envie de me raconter, de me dire mes quatre vérités. Mes quatre vérités. Ça fait quelques heures déjà que l'on est là, assis sur ton lit. On ne parle pas, paraît que le silence vaut tous les mots. Alors je me tais, tu me tournes le dos, comme pour éviter de me parler. D'un détour du regard, tu m'as demandé d'une voix si douce s'il me plaisait de ne pas m'attacher. Et tes yeux qui dorment dans tes louches me regardent d'un air un peu farouche. Ils crèvent d'envie de me raconter, de me dire mes quatre vérités. Et tes yeux qui dorment dans tes louches me regardent d'un air un peu farouche. Ils crèvent d'envie de me raconter, de me dire mes quatre vérités. Mes quatre vérités. Quatre vérités.
Bah, tes textes sont très forts. On te sent écorché, cartelé, blasé par les histoires de femmes et de cœurs. Si je peux me permettre, dans une de tes chansons, il y a ces paroles-là qui suivent. Il y a cette « Mes grandes, le sang de l'amour m'auront appris une fois de plus que les « je t'aime » au bout d'un jour sont aussi doux que les cactus. » Mais pourtant, tu es toujours vivant. Qui ne tue pas rend plus fort ?
Ce qui tue pas rend plus fort. Ça, c'est clair et net. C'est une grande leçon que j'ai apprise. Ce qui tue pas rend plus fort. En même temps, on n'a jamais été tué par les cactus. On se fait piquer les fesses de temps en temps. Mm-hmm. On s'asseye en dessus. Et oui, les je t'aime au bout d'un jour sont aussi doux que les cactus. Ça, c'est clair. Et ma foi, bah, c'est une des leçons que j'ai apprises avec les femmes. Il y a beaucoup d'histoires de femmes, c'est clair et net. Ça, ma foi, bah,
ça fait partie de la vie.
Ça fait partie de la vie, et puis c'est des choses qui me touchent. Voilà. C'est des choses qui me touchent, et puis ben, j'ai peut-être besoin d'en parler, parce que je peux peut-être pas en parler avec d'autres personnes. Mm-hmm. Je suis pas trop un gros parleur, je suis pas trop quelqu'un qui va raconter vraiment le fond de ses pensées aux gens, et le fait de pouvoir faire, de pouvoir écrire et de faire des chansons, ben, je vais raconter ça d'une manière peut-être un petit peu plus anodine. Et ça me permet de me cacher aussi peut-être un petit peu derrière ces chansons, racontant ces histoires. Les gens vont pas forcément tilter sur les histoires, vont peut-être dire c'est des histoires inventées, c'est peut-être des choses comme ça, mais voilà, c'est un petit peu le moyen que j'ai de me cacher derrière mes histoires, de pouvoir les raconter. Après, je les raconte à pas mal de gens, mais voilà, si j'avais pas la musique, si je pouvais pas les raconter en chansons, je les garderais au fond de moi et je serais encore plus torturé.
Ouais.
Je serais encore plus torturé.
T'es un artiste. Un artiste, ça.
On est tous des artistes.
On est tous des artistes et on a notre manière à nous de sortir ce qu'on a à sortir et puis de les partager. Et puis, directement ou indirectement, tu peux éclairer des gens. Des gens peuvent se retrouver dans certaines émotions que tu as et. Donc, ça peut être une grande lumière aussi.
On vit tous les mêmes choses, hein. On vit tous les mêmes choses. Exact. Donc, notre vie, elle se résume à travail, boulot, dodo, des histoires de gonzesses ou de mecs. Oui, on a tous eu des peines de cœur, on s'est tous pris des râteaux, on a tous aimé à la folie. On a tous dû prendre des décisions par rapport à ça. Mmh. Après, chaque personne est différente. Chaque personne ressent et reçoit les informations complètement différemment. Ouais. Après, je pense pas que ça puisse éclairer des gens. C'est pas une thérapie, c'est des histoires. Donc après, les gens, si je comprends qu'on puisse pas se comparer, mais se raccrocher à ça pour des histoires qu'on ait vécues. Et heureusement, parce qu'on est tous êtres humains avec un nez, deux yeux et une bouche. On est tous la même chose. On vit tous les mêmes peines. On a tous un petit cœur qui bat dans notre thorax. Et des fois, ben, il a un petit peu plus mal que d'habitude. Et ça arrive à tout le monde. Après, moi, j'ai la chance de pouvoir le dire en chanson. Et c'est génial si des gens peuvent se raccrocher à ça.
Est-ce que ces chansons te permettent de tourner une ou des pages de ta vie ? Ça me titillait, cette question.
À fond. À fond. À fond.
C'est un symbole ? C'est symbolique ?
Non, ça me fait du bien. Ça me soulage. Ça me soulage. À la fin de reculons, c'est voilà, ça dit que la guitare, c'est la seule dame. Et à chacun, ça dit à chacun sa thérapie. Moi, c'est de vous le dire, qui m'a sauvé mon esprit, qui a sauvé mon esprit. La seule dame qui a redonné espoir, c'est ma guitare. Donc oui, ça me fait du bien. Il y a des gens qui vont se coucher sur des divans en parlant à d'autres personnes de leurs problèmes. Moi, c'est d'être debout sur scène et de le chanter aux gens. Donc oui, ça me fait du bien. Ça fait toujours du bien de parler aux gens. Et j'ai cette chance énorme, mais juste énorme, de pouvoir le faire sur scène et d'avoir des gens qui viennent l'écouter. C'est une chance inouïe, alors que j'étais pas destiné à ça. Je suis ni chanteur ni guitariste, donc je suis tombé un petit peu. Je suis tombé là-dedans par hasard. Et de pouvoir le dire, ah oui, ça me soulage. Vraiment, vraiment, vraiment.
Tu te voyais comment? Enfin, tu t'imaginais aller dans quelle direction avant de toucher à la musique?
Avant, je faisais beaucoup de sport, donc beaucoup de snowboard. J'étais pas mal de temps avec des sponsors, donc du freestyle. Donc j'étais toujours dans ce milieu avec des mecs assez cool. On faisait pas mal de compétitions et de machins comme ça. Et c'est arrivé tout bêtement. Hein, moi, je travaillais dans un magasin de snowboard. Un collègue, il rentrait de voyage, il savait pas où dormir. J'avais 19 ans. Il m'a dit, je peux dormir chez toi. J'ai un tout petit studio. Il arrivait là, il avait une guitare. Je jouais un petit peu de basse avant. Et là, il m'a dit, allez, viens. Il m'a appris à jouer de la guitare, donc un peu de reggae. Très bon reggae. Merci à Zeb, un très bon joueur de reggae de Paris. Et il m'a appris à jouer de la guitare. Et de ce jour-là, je suis tombé amoureux de la guitare. Et j'ai joué des heures pendant 2-3 ans. Et j'ai commencé à écrire mes petites chansons pour faire rire mes colocs. Ça me faisait bien marrer. Et ça arrive aux oreilles d'un mec qui organisait des concerts. Et puis... Il m'a fait jouer un jour sur scène, quoi. C'était génial parce que j'avais le majeur qui était coupé, je m'étais fait opérer et j'ai joué tout le long avec le majeur. Donc je vous laisse imaginer cette espèce de doigt d'honneur que j'ai à tout le monde. C'était juste, et mon premier concert a été fait comme ça, quoi.
C'est
avec
super.
Le majeur levé, j'ai appris à jouer de la guitare comme ça. Mais je me voyais pas du tout musicien. Faire de la scène, pour moi, c'était un truc juste génial. Je voyais ça à la télé.
Tu t'es révélé là-dedans. Tu t'es surpris, révélé. Et tu t'as trouvé un épanouissement qui est juste énorme.
Voilà.
Et je pèse mes mots.
À fond les ballons. Ah, c'est clair. J'ai vraiment retrouvé un truc là-dedans que je pourrais juste plus m'en passer. Un des tout premiers concerts que j'ai fait, c'était ici à Monté. Il y avait Maxime, l'ancien batteur, le batteur d'Ina Crisis,
oui,
qui faisait le son et qui m'a dit, tu verras Blanchet, la scène, c'est comme les clopes. Les trois premières, tu tousses, puis après, tu te rues sur le paquet. Et c'était exactement ça. C'était juste exactement ça. Les trois premiers concerts étaient très difficiles. Et puis après, c'était juste... incroyable. Je vois des copains sur scène, j'en suis jaloux. Quand je suis dans le public, je suis jaloux. J'ai envie d'aller avec eux. J'ai envie d'être là. J'ai envie de pouvoir vibrer. C'est juste incroyable. Et je pourrais plus vivre sans ça.
Une évidence.
Oui, mais
c'était une évidence.
Il faut pas en faire. Il faut pas en faire un blocage non plus en se disant. Je veux faire ça de ma vie, je veux être célèbre, je veux faire que ça. Quand tu te lèves le matin et puis qu'il te faut jouer de la guitare, composer, que tu as des impératifs là-dedans, t'as plus le même plaisir. Moi, je pars bosser le matin, je fais du génie civil et je suis en habit de chantier encore là.
Et ça te va très bien, je fais une parenthèse là-dessus, ça te va très bien. Continue.
Je pars le matin, je suis libre. J'arrive au boulot, je parle de musique avec mes collègues. Il me demande tout le temps de chanter sur les chansons. Alors je chante, ça les fait rire. J'ai repris une chanson de Florent Pagny qui s'appelle « Mais vous n'aurez pas ma brouette de mortier » qui fait hurler de rire.
Avec... Tu veux pas, nous.
« Mais vous n'aurez pas ma brouette de mortier » Alors, c'est la chanson phare du boulot.
J'apprends quelque chose.
Donc, mais voilà, je parle le cœur et l'esprit libre le matin au boulot. Je bosse mes 10 heures de chantier, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment un truc que j'adore, faire de la pelle et de la pioche, ça me libère l'esprit. Et le soir, je rentre, je joue de la guitare et le week-end, je pars en concert. Et le lundi, je retourne sur les chantiers. Ça me fait vraiment des coupures.
Mm-hmm.
Et de faire que ça, je sais pas si ça me plairait vraiment, vraiment, vraiment.
En fait, t'as trouvé un bel équilibre.
T'es obligé de trouver un équilibre. Je pense que les mecs qui font que de la musique, ils sont pas heureux. Enfin, ils peuvent être heureux, mais il y a tellement de pression, il y a tellement de choses que quand t'as des impératifs à rendre des chansons et à rendre des choses comme ça, au bout d'un moment, tu te dis merde, je dois écrire. Et j'ai pas envie de me dire merde, je dois écrire. J'ai envie d'écrire, j'écris. Et si j'ai pas, on n'a pas tout le temps l'inspiration. Heureusement. Moi, je me considère pas comme un auteur, je me considère comme un opportuniste. Donc, quand le truc vient, je l'écris. Mais je veux pas devoir me dire, devoir me poser devant une feuille blanche avec un thème en me disant « Maintenant, il faut que j'écrive une chanson là-dessus. » D'abord, parce que j'en suis incapable. Et puis deuxièmement, j'en ai pas envie. Il faut que ça soit spontané.
Voilà, c'est ce que je voulais dire. Spontané, tu vis le présent.
Voilà, il faut que ça soit spontané quand on t'écrit, quoi. C'est écrit en un quart d'heure.
Ouais, tout à fait. Tu vibres vraiment dans le présent. Je voulais dire que la musique est joyeuse, entraînante. Dans ton cas de titre, le contraste des textes et cette musique qui est pas triste, au contraire, qui est plutôt belle et qui met de la lumière, de la vie, ça apporte dans l'évidence je sais pas si je peux le dire comme ça, mais c'est l'équilibre de l'album, quoi. Parce qu'il y a ce mélange de justement ce côté écorché de ce que tu as vécu. Et puis dans ton disque, musicalement, on retrouve l'accordéon. Il y a un côté entraînant comme ça. Et il y a des touches subtiles comme ça.
Un jour, on m'a dit, quand tu es triste, tu composes des trucs joyeux. Et quand tu es joyeux, tu composes des trucs tristes. Et c'est complètement vrai. Parce que de par ça, tu essayes de compenser ta tristesse par un truc joyeux. Et nous, on a composé les morceaux avec Marc Vetter, enfermé dans une chambre. Moi, je suis arrivé avec mes textes, avec les bases de guitare. Et c'est vrai que ces textes sont un petit peu tristes, où il y a des textes un petit peu plus écorchés. Et puis toi, on a essayé de mettre une musique un petit peu plus joyeuse dessus parce que quand on est triste, ma foi, quand t'as des textes écorchés, il faut aller de l'avant. Il faut pas se canter sur ta tristesse et tes larmes qui coulent. Il faut aller un petit peu plus en avant. Et voilà un petit peu pourquoi on a mis des musiques plus joyeuses avec cet accordéon qui se fout un peu de ma gueule.
Comment il est arrivé là, cet accordéon ?
Mais cet accordéon, c'est Alain Léry. On se connaît depuis assez longtemps. On a fait quelques dates ensemble à la fin des Fils à Rabot. On jouait guitare, mandoline, accordéon. Alain, c'est un bon copain. Et puis, j'adore l'accordéon. Je trouve qu'accordéon, guitare, c'est un truc qui se mélange juste tellement bien. Le vent et les cordes.
Oui.
Je voulais de l'accordéon. Alain est arrivé et avait entendu une fois les chansons en arrivant au studio. Et on l'a mis en salle d'écoute. Il a écouté les trucs. Il a cherché les trucs. Son accordéon marchait que dans un sens. Il avait des touches bloquées. mais bon, voilà, c'est un très bon pianiste. C'est un super chanteur. C'est quand même un musicien hors pair. Et on a vraiment misé sur cette spontanéité sur le CD aussi. Le Julien Pouget, arrivé pour les guitares, avait entendu deux fois les chansons. Il m'a changé deux, trois arrangements dans les guitares. Il a vu ce piano dans le studio, il a dit « Est-ce que je peux mettre un coup de piano ?» Il a mis des coups de piano. On a vraiment bossé. Ça a été mis en boîte en deux jours, quoi. Avec deux musiciens sur quatre, quand même, qui avaient pratiquement jamais entendu les morceaux. Et cet accordéon, il est arrivé comme ça parce que c'est juste merveilleux.
Ah, ouais.
Et il se fout de ma gueule, l'accordéon, dans les moments où je me dis. Et j'adore, il rigole.
Cet accordéon est très expressif.
Ouais.
je confirme.
À tout étant, une question. Puis ces sourires qui viennent et puis s'en vont. Si on vient de dire qu'il faudrait avancer, c'est pas de vive voix mais plutôt à coups de pied. Et on avance à reculons. On boit du noir, on brûle nos sentiments. Y'a tout qui tourne, parlons dans ma tête. Même la torture y est venue faire ses petites emplettes. Et on connaît la peine de cœur que lorsqu'on a connu l'amour, qu'on s'est dit ça sera pour toujours. Mais les bonnes choses ne sont jamais éternelles. J'ai connu ça dans les larmes d'une belle. Et on avance à reculons. On boit du noir, on brûle nos sentiments. Y'a tout qui tourne, parlons dans ma tête. Même la torture y est venue faire ses petites emplettes. chacun sa thérapie. Moi c'est de vous le dire qui a sauvé mon esprit. Mon psy à moi, c'est ma guitare. C'est la seule dame qui m'ait redonné espoir. Et on avance à reculons. On broie du noir, on brûle nos sentiments. Y'a tout qui tourne bien rond dans ma tête. Même la torture a pris la peau des scampettes.
La pochette de l'album m'intrigue, écorchée aussi. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur cette pochette? Décris-la nous. Je te laisse la décrire parce que on voit pas une pochette comme ça tous les jours. Voilà. Alors, parle-moi de cette pochette.
La pochette, vu que le CD, on a pas mal joué sur les quatre. Hein. Donc mes quatre vérités, quatre titres. On s'est dit, qu'est-ce qui pourrait jouer avec ça? Enfin, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait jouer avec ça? Et je me suis dit, une main à quatre doigts, ça serait juste fantastique. Ça fait ce petit côté, mes quatre vérités, ce côté un peu mafia, de la personne qu'on a dit un petit peu trop, qui s'est fait couper un doigt. Mm-hmm. Et j'avais quelqu'un à qui manquait un doigt à Verbier, le boucher d'où je travaillais en face. Et j'ai jamais osé lui demander. Je l'ai vu des milliers de fois depuis que j'ai cette idée. J'ai jamais osé lui demander. Est-ce que Camille, est-ce que je peux prendre une photo? Trop mal à l'aise, quoi. J'ai vraiment pas osé lui demander. Et puis, en fait, cette pochette, c'est une main. Donc, la paume de la main sur le recto de la pochette. Mm-hmm. Avec quatre doigts. Donc, il manque l'index. Ouais. C'est assez troublant. Mm-hmm. C'est assez troublant. Et quand on a commencé les maquettes, enfin quand on était en train de faire les maquettes, Julien Pouget, le guitariste qui était là, a dit, moi mon papa il manque un doigt. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu peux lui demander, très mal à l'aise, est-ce que tu peux lui demander si on peut pas prendre une photo de sa main? Et il lui a demandé, effectivement son papa a dit oui. Donc un samedi matin on est parti avec Dash, David Chaler de 24 Pictures, qui a fait le teaser notamment, et Marc Lay, et mon pote Marc Lay, photographe, on est parti à Orcières prendre la photo de la main. Donc c'est très délicat, arriver à 3 un samedi matin chez le monsieur. Ouais. Bonjour monsieur, est-ce qu'on peut prendre une photo de votre main? Ouais. C'était... Mais il nous a mis super à l'aise dans le truc. Ouais, on s'est vraiment bien marré la matinée. Okay. Donc sur les fonds blancs et tout, donc sur le recto, c'est cette main qui manque l'index, donc vraiment bien ouverte. Mm-hmm. Sur le verso, c'est l'autre côté de la main. Mm-hmm. Et sur le CD, c'est le poing. Et tu l'as pas, hein?
Alors non, il faut savoir que...
T'as le recto verso.
Voilà, j'ai le recto verso, moi.
Et sur le CD, ça sera le poing. Okay. Et après, il y a cette écriture, mes quatre vérités, c'est cette écriture d'enfant, donc oui. C'est le fils d'une amie à moi qui a écrit ça. Okay. Et je voulais ce côté, vraiment ce côté photo, donc pas retouché. Mm-hmm. Et ce côté vraie écriture, on m'a reproché un petit peu de me dire, ouais, mais ça colle pas avec le reste du truc. Mais ce côté enfant, ça fait partie de mes quatre vérités. Ça fait partie de je suis encore un grand gamin, je suis encore un enfant. Et je voulais avoir cette écriture d'enfant. Elle est un petit peu, elle est torturée aussi. Elle est vraiment torturée et j'aime ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est une pochette qu'on va regarder au début en disant, je comprends pas tout à fait ce qui se passe. Il y a un truc de bizarre. Puis après on fait, ah, il y a quatre doigts sur la main et quelques amis l'ont vu, m'ont dit bluffant. Et je pense que ça va être une vraiment une belle pochette. Je tenais à mettre aussi un point, faire une belle pochette, même si ça serait une petite pochette carton. Ça fait beaucoup de choses, oui. Parce qu'enregistrer un CD, c'est pas tout de faire de la musique, mais c'est une pièce. c'est un objet qu'on va avoir. Et, la pochette fait beaucoup de choses.
Oui, il fait beaucoup de choses. C'est bien d'avoir. Il y a une question toute simple qui me vient. Pourquoi 4 titres? Pourquoi pas un album 8-9 titres?
Parce qu'avec Marc, on a décidé ça sur une terrasse un jour. On s'est dit, tiens, allez, on enregistre un truc. Finalement, on fait. Mm-hmm. Puis on s'est dit, on fait 4 titres. Mm-hmm. Bon, on a composé les 4 titres. On s'est dit, 4, c'est un bon chiffre. On va partir dans des routes un petit peu plus différentes. On va mêler de l'électro avec de la guitare sèche, avec des textes, mm-hmm. avec des choses comme ça. Puis on s'est dit, on va voir comment ça marche. On voulait pas trop aller avec des gros sabots et puis se dire, on sort un album avec 12 titres. On s'est dit, on sort 4 titres, mais on sort 4 bonnes chansons. On s'est dit, autant avoir 4 bonnes chansons sur 4, des trucs vraiment... crocheur, ouais. Et que d'avoir 12 titres et d'en avoir 4 dessus. Donc on s'est dit, et puis là on est parti dans un délire en se disant, et si on faisait 2-4 titres par année, mm-hmm. et après on ferait une pochette en fin d'année à chaque fois avec 2 CD, 8 chansons, clac, complètement différentes. Et à chaque fois on part, et sur 4 titres tu peux partir dans des tripes et dans des tu peux vraiment partir dans une énergie très commune. Tandis que sur 12 titres, si tu fais 12 titres dans la même énergie ou dans la même ligne...
Ça peut être lassant.
Ça peut être lassant.
Ouais.
Ça peut être lassant. Donc là, on s'est dit, on fait 4 titres. Ça va être simple. Mais c'est, ça marche, quoi.
C'est aussi, je trouve bien de faire un 4 titres là pour commencer, parce que c'est peut-être dur à dire, mais... un album où tu as 10 titres dessus, 9, 8, va plus facilement être oublié au bout d'un moment que tu sors 4 titres, voilà, tu les présentes, et puis tu ressors un 4 titres après, et ainsi de suite, pour justement entretenir
cette dynamique
d'être ouais. présent, de toujours tourner, de faire de la musique, puis de te faire
c'est aussi donner des trucs neufs. Donc 4 titres, oui. tu vois, c'est plus vite composé, plus vite enregistré, plus vite mis en fonction que 12 titres. Mm-hmm. Donc là, c'est 4 titres, c'est 9, c'est spontané, paf, il y aura le prochain 4 titres qui va sortir, je sais pas, dans 6-7 mois. Tu vois, il n'y aura pas besoin d'attendre 2 ans pour avoir un autre album
oui.
et d'écouter toujours le même album. Là, il y a mm-hmm. 4 titres, c'est 11 minutes ou 12 minutes de chanson. Mm-hmm. Ça passe okay. vite, mais dans une voiture, sur un trajet, tu mets le CD, ça passe. Donc sur ce côté-là, c'est aussi génial. Tu rentres dans un petit univers. C'est un petit univers. Un tu petit vas rentrer univers. Dedans.
Et tu te familiarises. Moi, qui ai écouté et réécouté ces titres-là, ça permet de te familiariser vraiment entièrement avec ces titres et pas avec 10 titres et où tu sais plus quoi, comment, quel numéro. Voilà.
Ouais.
Si je trouve que pour rentrer dans un album, dans un univers, c'est important d'aller justement petit à petit aussi, et puis de pouvoir s'en imprégner, et puis je trouve ça super, vraiment. Voilà, donc super.
C'est bizarre, oui. Hein, cette pochette.
Alors oui, alors ouais, elle est
troublante.
Elle est troublante, voilà, elle est vraiment troublante, mais elle sort du lot. Puis au final, ça me surprend pas, parce que voilà, te connaissant et... Donc voilà, j'ai rien à rajouter là-dessus. Par contre, il y a une autre question qui me turlupine. La chanson « Mes 4 vérités », il y a un an en arrière, elle ne s'appelait pas comme ça. Elle s'appelait « Tes yeux dans des louches ». Pourquoi cette transformation de nom? Qu'est-ce qui s'est passé?
Mais enfin, ce que je compose, c'est jamais tellement défini. Donc je donne jamais vraiment des titres aux chansons. Je les invente au fur et à mesure. Des fois, je les change. Les musiciens, ils ont un titre, et puis pour les gens, c'est un autre titre. Et puis là, ça s'est retrouvé en disant « Mes 4 vérités ». Et puis on s'est dit « Tiens, mes 4 vérités, finalement, c'est le truc qui retient. » Et
ouais.
puis ça va s'appeler. Puis on s'est dit « Tiens, mes 4 vérités, on va bosser sur 4 chansons. » On s'est dit « Mes 4 vérités, ça va être... » Ben voilà, on a appelé le CD comme ça, il y a mmh. cette chanson-là. Puis c'était un petit peu la suite logique de cette chanson. D'appeler ça « Mes 4 vérités ».
Je suis d'accord.
Mais la chanson « Sans rancune », elle s'appelait pas « Sans rancune ».
Okay,
elle n'avait pas de nom. On appelait ça « Le patron ».
J'adore le camion. Alors, j'avais envie de te dire, en fait, si je te dis Jaco sur scène, c'est entre caractère, culot, déjanterie et grande sensibilité. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te correspond?
Très bien.
Est-ce que j'ai bien cerné,
bien cerné.
Ok.
T'as vu le concert au Divin Brasseur.
Alors, j'allais justement aborder cette date-là parce que c'était pour moi le premier concert de toi que je voyais. Donc c'était émouvant déjà de te revoir à ce moment-là parce que tu revenais de ton voyage et puis on avait entretenu le contact. Donc c'était assez émouvant. Tu te produis en solo sur scène. Pourquoi est-ce que tes musiciens... en solo? Pourquoi l'accorder? Pourquoi il n'y a pas d'accordéoniste?
Je pense que c'est la liberté. C'est la liberté. Honnêtement, je vais le dire, je ne suis pas un musicien. Je sais aucune note qui se passe sur mon manche. Je ne sais pas lire une partition, ni une tablature. Je suis nul. Et ce côté solo, mes chansons, je peux les trafiquer comme je veux. Donc si je veux la jouer plus calme, si je veux la jouer plus folle, si je veux m'arrêter au milieu, j'ai cette liberté que tu peux pas avoir avec des musiciens. Et j'aime ce côté un petit peu showman, j'ai ce côté un peu showman sur scène. Et j'aime ce côté solo parce que je peux m'amuser avec le public et je peux faire que le public s'amuse avec moi. Ce qui n'est pas possible avec des musiciens. Et c'est des petites chansons, des chansons à texte. Donc d'être en solo, c'est raconter tes histoires. J'en fais des concerts avec les musiciens. C'est peut-être des plus grosses dates. C'est peut-être des plus grosses scènes où vraiment il y a une grosse infrastructure, il y a plus de monde. Les gens viennent là pour bouger. Là, oui, il y aura d'autres musiciens. Mais dès qu'il s'agit, la plupart du temps, c'est des petites dates que je fais. Et j'aime être en solo parce que c'est... J'aime me mettre tout nu comme ça sur scène.
Ouais, la mise à nu, on le disait avant. À peine t'es revenu, que t'as déjà joué, t'as déjà fait des petites dates. J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Qu'est-ce que t'as ressenti? Qu'est-ce qui s'est passé dans ces dates-là? Comment t'as vécu ces retrouvailles déjà avec la Suisse, avec le public ici? Et puis.
Ça s'est passé très vite. Dès que je suis revenu, la semaine d'après, on a commencé les maquettes.
Ouais,
on a recommencé direct et il y a quelques personnes qui ont su que je rentrais. Donc j'ai été booké déjà au Brésil, j'avais déjà des dates bookées en rentrant. J'ai fait pas mal des stations comme Les Uns, comme Verbier, j'ai joué à Martigny, j'ai joué à Monté, j'ai joué un peu partout. Un peu partout. Façon de dire, quoi. Mais c'est de retrouver la scène comme ça, c'était juste génial. Ça m'a manqué à un point. Je crois que c'est le truc qui m'a le plus manqué avec ma grand-maman quand j'étais loin. Et la scène, c'est juste un sentiment incroyable. Enfin, je préfère faire de la scène que du studio. C'est tellement un truc où tu peux te donner, où tu peux t'exprimer, où tu peux
être entier, être toi.
Où tu dois être entier, être toi. Tu peux pas mentir sur scène, c'est pas possible. Quand tu arrives sur scène, les gens te regardent, t'es là pour...
C'est de nouveau la mise à nu.
C'est une mise à nu, t'es à poil. T'arrives à poil, mais complètement. Et pouvoir donner ça au public, le public te donne énormément de choses. Et puis au milieu, ça crée cette espèce d'alchimie, des fois qui ne se crée pas du tout. Soyons clairs, et des fois où c'est complètement plat... Mais il y a des concerts comme où j'ai joué à Les Uns, aux Stations, j'ai joué au Divin Brasseur où c'était juste incroyable.
Il y avait une sacrée énergie et puis c'était bourré d'émotions et puis il n'y avait pas n'importe qui dans la salle non plus.
Il y avait ma maman, c'est vrai qu'il y avait ma maman, ma grand-maman et mon beau-papa. C'était la première fois qu'ils me voyaient en concert.
Voilà.
Et eux ont juste trouvé incroyable. Ma maman arrivée à la fin m'a dit: mais est-ce que tu te donnes à chaque fois comme ça? Mais c'est vrai que sur scène, on est là pour se donner.
Complètement.
T'es là pour te donner et, Et c'est vrai que c'était juste incroyable de voir ces gens qui criaient, les gens criaient dans cette salle. Il y avait deux artistes avant où c'était assez calme. Et moi qui suis arrivé un jeudi soir à 11h30, c'était l'orgie, quoi. Et j'ai trouvé juste, et il me semble que de plus en plus quand je vais jouer, les salles se remplissent, les gens viennent.
Ils sont réceptifs ?
À fond. Ouais. À fond. Et un jour, j'ai vu quelqu'un chanter en même temps que moi.
Waouh.
Et ça m'a touché tellement que j'en ai perdu les paroles, j'ai dû arrêter la chanson. J'étais là, mais tu continue à chanter à ma place, quoi. C'était juste magique. Et donc, quand t'as ce contact des gens qui viennent à toi, quand t'as cette chose que t'as pas besoin de leur demander, de leur supplier, parce que quand tu joues au début, c'est du supplice. Il faut demander aux gens, il faut vraiment les motiver, les gens sont pas là, ils viennent pas pour te voir. Mais là, il me semble que les gens commencent gentiment à venir, à te voir, et ils te regardent avec des grands yeux comme ça, et c'est juste magique.
C'est super, et ben. Oui, on n'a pas fini, à mon avis, d'entendre parler de toi, parce qu'il y a des dates, des concerts qui vont venir encore. Alors, je tiens à citer le 9 juin au Carigans Festival à Martigny. Et un grand bonjour et un grand bisou à Guillaume. Voilà, le Carigans à Martigny-Bourg. Et le 22 juin, la fête de la musique ici à Montais, sur la scène du Pic.
Ouais.
Voilà.
En dernier concert.
Le tout dernier concert.
Le tout dernier concert, ouais, ça sera le vendredi soir, le 22, sauf erreur, à minuit et demi sur la scène du Plic où j'ai fait mes premiers pas sur scène. Je pense qu'il y aura, ça va être juste génial. Et normalement, soit le 17 ou le 18 août, au Basic Festival, la suite du Bona Fiesta Festival. Organisé, donc apparemment je dois jouer là-bas. J'en suis pas trop. Enfin, je sais pas quel jour je jouais, mais je joue là-bas. Donc voilà, après ça va être un petit peu plus calme. Commencer à recomposer pour le prochain 4 titres.
Pour les laisser construire le bonhomme de chemin, en tout cas moi, les dates citées, je les ai bookées, je les ai réservées. Et j'en suis ravie, je me réjouis. Pour te suivre ton actualité. Alors, juste avant, j'ai quand même envie d'annoncer qu'il y a un teaser qui a été mis.
Par 24 Pictures.
Répète ça.
C'est un teaser qui a été fait par 24 Pictures, par David Chalère, qui est très grand talent dans la vidéo, dans tout ce qui est film et tout ça, qui nous a suivis lors du studio, qui a fait le montage. Extraordinaire,
images, ouais.
Super, ouais, grande chance de travailler avec ce monsieur que je salue. Je suis désolé de t'avoir mis la pression en dash, mais c'est un vieux pote d'enfance. Alors des fois, faut mettre un peu la pression.
Oui.
Mais voilà, qui a fait ça avec grande gratitude. Et donc ouais, le teaser est sur ma page Facebook, donc ce Jaco, et puis sous mon vrai nom, Pascal Jaco Blanchet.
Voilà, on précise.
Donc voilà, le teaser est en ligne. C'est une petite vidéo de 2 minutes, quoi.
À voir, à écouter, à entendre, et puis page Facebook.
Page Facebook, Jaco.
Voilà, tu as un
MX3 qui va revenir si je retrouve le code pour si je retrouve le code pour remettre mes chansons. Ça fait longtemps que je ne vais pas les dire.
Un site internet, est-ce que
non. Pas
non
du tout, non, parce que maintenant avec les moyens. Facebook, ouais. MX3, il y a bien assez. Il faut pas bousculer les gens, leur balançant trop de trucs. Mmh. Donc, non.
Les remerciements, c'est quand même important.
À fond.
Et toi, là, je te laisse la parole, vraiment,
vrai.
Parce que là, t'as quelque chose à dire.
Mais j'aimerais remercier. Alors, il y a lui. J'aimerais remercier lui, eux. Lui, non, j'aimerais remercier mais tout le monde. Il y a Marc Veté qui a fait un boulot extraordinaire sur toute la composition des morceaux, sur la production. Il y a Steph et Chopiou de Roy Stone qui ont s'est bien fendu la poire, qui sont des scientifiques de la musique. Il y a Julien Pouget à la guitare, au piano. Il y a Alain Léry à l'accordéon. Il y a Marc Veté à la batterie et au clavier. Il y a Il y a Dash qui est venu faire tous les films. Il y a Théo Lugon qui est à la Caisse Claire. Et puis, merci à tout le monde. Parce que sans tout le monde, on fait rien. C'est une grande équipe. Et puis, tout le monde fait partie de l'équipe.
T'es le partage. Merci, vraiment. Chaque fois, c'est... à chaque fois, c'est que du bonheur de partager avec toi, de faire entendre parler de toi. Et puis vraiment, toute bonne continuation. On se reverra, tu reverras mon micro.
Au bout de la fin. Que vive le cirque.
Merci beaucoup en tout cas, merci.
Mais pas de quoi, merci à vous.